avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
Il est 8h44 sur l'antenne de Radio Classique. Esprit libre avec Rachel Kahn qui a ses notes devant les yeux.
Oui.
Et Hervé Gattegno qui lui vient comme d'habitude sans notes.
Bonjour, non, ça dépend. Ne me faites pas cette réputation.
Mais non, mais c'est très bien, chacun sa méthode.
Bien sûr.
Macron hier aux 20h de TF1, on va débuter par ce premier thème. Le Figaro parle de saturation politique. Le Parisien d'un Macron sur tous les fronts et Libé d'un Macron en toute autosatisfaction. Alors quel est le titre qui vous plaît le plus ? Celui du Figaro, celui du Parisien ou celui de Libération, Rachel ?
Non, aucun. Moi, je
aucun.
Trouve non, parce que je trouve que c'est un président. À chaque fois, on lui reproche des choses en permanence. On lui a reproché de pas faire campagne. Maintenant qu'il est sur le terrain, on lui reproche aussi. On lui reproche le fait qu'il n'y ait pas d'usine. Maintenant qu'il est sur la réindustrialisation, on va lui reprocher aussi. On lui reproche quand il y a pas assez d'emplois, quand il en crée, on va lui reprocher aussi. Donc c'est assez énervant. Je trouve qu'on a un président qui est en prise avec le réel sur justement différents sujets à 360, sur l'environnement, sur l'économie. Sur l'école, sur la santé. Et donc, il est face à cette réalité. Et je trouve que remettre le réel au centre, ça nous fait du bien. Et puis, en plus, il est en combattant. Il a un esprit, c'est un peu le Teddy Riner de la politique, quoi. Il ne lâche rien, bah oui. Il ne lâche rien. Et puis, alors, il parle aux Français, mais aussi, il a su répondre à ses adversaires, je trouve, par rapport à cette question du mépris. C'est vrai que les gens qui méprisent depuis leur salon, en étant sur Twitter, c'est un peu agaçant. Il a fait une réponse avec beaucoup de noblesse, j'ai trouvé.
Alors voilà, donc Macron, Teddy Riner de la politique. Bon, c'est pas la même catégorie niveau poids, mais Hervé, votre analyse sur sa prestation hier.
Moi, je pense que d'une façon générale, le président de la République, c'est le paratonnerre national, en fait. Donc toute la foudre tombe sur lui, et les Français aiment ça en réalité. Donc ils aiment lui reprocher tout et son contraire, comme vient de le dire Rachel. Là-dessus, je suis d'accord. Quand il parle trop, on lui reproche. Quand il parle pas assez, on lui reproche. C'est entendu. Il n'a pas assez fait campagne. On l'a dit mille fois. Il est donc rattrapé par cette absence de campagne. Il est obligé de faire une campagne a posteriori. C'est probablement dommage, surtout qu'on a vu hier soir un Macron plutôt dans un bon registre. Il était assez bon,
ouais.
Meilleur que les deux dernières fois, ai-je trouvé. Et puis, d'une façon générale, je trouve que il est maintenant un peu prisonnier de son personnage. C'est-à-dire que je pense que pendant la séquence des retraites, il a tenté de mettre en place, de remettre en place le système qu'appellent nos institutions, c'est-à-dire un président un peu en dehors du champ, un président en surplomb, avec un gouvernement aux affaires. Ça n'a pas marché, tout le monde l'a vu, et je pense qu'il a lui-même fait ce constat. Le gouvernement n'a pas réussi, Elisabeth Borne n'a pas réussi. Ce n'est pas un reproche qu'on leur fait,
c'est
un constat.
Un ouais.
Le gouvernement n'a pas réussi à fabriquer la majorité nécessaire, ni au Parlement, ni dans le pays, pour approuver cette réforme difficile. Et dans ces conditions, Emmanuel Macron, comme tous ses prédécesseurs, je dis bien tous, considèrent à ce moment-là que personne ne peut le faire mieux que lui, et donc il le fait.
On va écouter justement Emmanuel Macron lorsque Gilles Boulot lui a fait remarquer que pour beaucoup de Français, il était méprisant. Écoutez la réaction du chef de l'État.
Si je méprisais vraiment les Françaises et les Français ou notre pays, j'essaierais pas de parler à l'intelligence collective et de faire ce qui est bon pour le pays. Je penserais à ma pomme. Vous pensez que c'est bon pour ma pomme de faire ce qu'on fait sur les retraites, de porter des textes difficiles, de subir et d'accepter l'impopularité qui va avec? Je suis parfois dur au mal. Oui. Méprisant, je le récuse.
Voilà, le chef de l'État hier, donc, chez nos confrères de TF1. Bon, évidemment, il allait pas dire le contraire. Mais je reviens à Hervé et Rachel sur ce que vous disiez à l'instant, d'ailleurs, sur ce gouvernement qui échoue. Mais très franchement, on a le sentiment aussi qu'Emmanuel Macron a beaucoup de mal à vouloir déléguer d'une certaine manière et qu'un gouvernement faible, j'allais dire que pratiquement ça l'arrange, non ?
Oui, d'abord moi je ne veux pas dire que c'est un gouvernement qui échoue parce que c'est un gouvernement qui réussit beaucoup de choses et ils ont beaucoup de succès. Leur principal insuccès, c'est de ne pas arriver à en convaincre les Français. C'est ce que rappelle pratiquement à chacune de ses sorties Emmanuel Macron.
Oui.
Et en effet, il est là aussi le meilleur porte-parole de sa propre action et de son propre gouvernement. Maintenant, La difficulté à déléguer, là encore, je crois qu'elle est de plus en plus inscrite dans notre pratique politique. Il ne faut pas se leurrer. Les Français n'attendent pas un effacement du président de la République. Je n'y crois pas du tout. Je pense que à chaque fois qu'un président, les deux prédécesseurs, hein, si on ne parle que des quinquennats, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont eu des périodes d'éloignement, des périodes où ils essayaient de raréfier leurs paroles pour lui redonner un peu de poids. Ça n'a jamais fonctionné. Les Français attendent du président de la République des explications, des engagements et qu'il rende des comptes. Donc, c'est ce que fait Emmanuel Macron.
Oui, et puis il y a aussi, j'ai trouvé cette réponse là sur l'aspect méprisant en fait du président très intéressante parce que à la fois il veut réparer la société, aller au contact et réparer, et dans le même temps, il répond sur une forme de ligne de crête à ses adversaires sur cette question qui revient tout le temps, cette question incessante du caractère méprisant. Et par ailleurs, il y a une phrase, moi, qui m'a éperdument presque touchée, c'est lorsqu'il parle des réseaux sociaux à la fin, et lorsqu'il dit que les réseaux sociaux forgent vite des images. Et on sait très bien qu'avec les algorithmes, c'est cette montée, en fait, justement, de dessiner cette image du président méprisant, on n'arrive pas à s'en sortir.
Alors, Emmanuel d'un côté, Elisabeth de l'autre, hein, l'exécutif c'est l'Élysée-Matignon, première année à Matignon pour Elisabeth Borne. Le couple Borne-Macron, Rachel, c'est un couple que vous qualifiez de quoi? De déséquilibré? C'est un couple, j'allais dire, une alliance par défaut, puisqu'on sait que c'est pas le premier choix d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Comment vous jugez ce couple de l'exécutif?
Déjà, ce couple, il arrive à un temps qui est difficile. C'est-à-dire qu'effectivement, Emmanuel Macron n'était pas vraiment sur le terrain. Il a été empêché par des problématiques post-Covid, Ukraine, etc., etc.
Et ça pouvait peut-être l'arranger aussi, un petit peu.
Ne l'excluons pas.
Voilà. Après, je trouve que l'air de rien, Elisabeth Borne, elle garde le cap. Hein. Là, c'est sorti à la Réunion. J'ai trouvé que elle était justement, elle prenait une distance. Elle avait un petit ton d'autodérision. J'ai trouvé ça très intéressant. Par ailleurs, moi, ce qui me dérange là dans la période actuelle, c'est cette histoire d'anniversaire. J'ai le sentiment que, en fait, parce que c'est une femme, on trouverait presque le temps long parce qu'elle est à la tête du gouvernement et qu'on n'arrête pas de rappeler finalement que ça fait un an, comme si...
Peut-être aussi c'est parce qu'on a le sentiment que le quinquennat vient juste de commencer, alors que ça fait un an qu'il a débuté le second quinquennat, Hervé.
Non, je trouve que, contrairement à Rachel, je trouve que Elisabeth Borne est un peu affaiblie objectivement, et je trouve même que ça se voit un peu dans la façon dont elle traite les choses. Peut-être justement parfois dans ces petits signes d'autodérision. Peut-être qu'en réalité elle est un peu plus relâchée parce qu'elle sent que sa relation avec le président de la République est abîmée.
Ouais.
Et que lorsque la relation est abîmée, le Premier ministre a des raisons de commencer à s'inquiéter. Quand même, concrètement, on l'a vu plusieurs fois contre-arbitrer tout récemment. Elle a été contre-arbitrée sur l'immigration, elle ne voulait plus du texte, le président a imposé qu'il revienne. Elle a été contre-arbitrée sur les baisses d'impôts, elle n'en voulait pas, Gabriel Attal les a annoncées lui-même, c'est repris par le président de la République et même porté comme un étendard maintenant par le président de la République. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, se passe quasiment de l'avis de la Première Ministre pour travailler directement avec le Président. Elle n'est pas dans une bonne phase. Alors maintenant, il ne faut pas jouer les prophètes de malheur. Vous savez, les Premiers Ministres, il y a des hauts et des bas.
Ouais.
Ça peut encore durer, mais objectivement, cette relation aujourd'hui est abîmée. Ce couple n'est pas en harmonie.
Un sujet qui m'intéresse, la lutte contre l'homophobie dans le sport. On a eu cette journée le week-end dernier, justement, avec la FFF qui donc proposait et qui imposait des maillots floqués arc-en-ciel, justement, pour lutter contre l'homophobie. Plusieurs joueurs, alors effectivement, il y a à peu près 800 joueurs, il y en a 5 qui ont refusé de le porter, mais la Fédération Française de Football refuse de sanctionner ces joueurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Rachel?
Bah déjà, je voulais saluer le travail de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra,
ouais,
en fait, qui justement...
Qui demande des sanctions, d'ailleurs.
Absolument. Moi, ce que j'en pense, c'est déjà par rapport à la jurisprudence, notamment la jurisprudence de la communauté Autorité européenne des droits de l'homme qui, en matière de discrimination, traite la discrimination sans prendre en considération le motif. Et je considère qu'on est quand même un pays humaniste, universaliste, contre les castes, etc. Et qu'on a une devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, laïcité, qui n'est pas une opinion. Qui est notre loi fondamentale et que tout citoyen, qu'on soit sportif ou pas, on a le devoir en fait de mettre en œuvre notre loi fondamentale, cette devise républicaine.
Hervé,
il y a un piège dans cette affaire, c'est que évidemment que la lutte contre l'homophobie est une bonne cause, une cause juste et nécessaire, et évidemment que l'homophobie n'est pas une opinion. Le porte-parole du gouvernement l'a rappelé, il a eu raison. Tout ça est d'accord, mais ce n'est pas parce que la lutte contre l'homophobie est une bonne cause que chaque personne qui ne lutte pas contre l'homophobie est homophobe. Sinon, on devient fou. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas vouloir mettre des causes partout. Les clubs sportifs sont des entreprises, les joueurs sont des salariés, ils font du sport. Le sport, ça véhicule beaucoup de formidables valeurs.
Je puis me permettre, parce qu'il nous reste très peu de temps, je voudrais qu'on parle de Cannes, mais si on avait fait une journée contre le racisme, et que vous, voilà. et si vous aviez eu 5 joueurs qui avaient dit « moi, je veux pas mettre le maillot contre le racisme », là,
non mais voilà. Justement, je veux juste conclure mon propos d'un mot. Bien sûr que, évidemment, qu'il faut le désapprouver. La ministre ne demande pas des sanctions. Elle trouve qu'il faudrait en prendre, et c'est au club d'en prendre. À chaque club de décider si c'est dans sa règle ou non, si c'est sur son maillot ou non. C'est à eux de décider.
C'est pour ça que je parlais des discriminations de manière générale.
Alors, on va passer au Festival de Cannes, non pas le Festival de Rachel, mais Saint-Félicien.
Un peu quand même.
Sur la croisette. Juste que question tout à fait personnel, Rachel, le film à Cannes qui vous a marqué?
Moi, c'est quelque chose vraiment d'intime. C'était en 2009, Un prophète, parce que je travaillais à la région Île-de-France. C'est un film qu'on avait soutenu avec Jean-Paul Huchon, le président, et qui a fait émerger des talents comme Taha Rahim, Laïla Bekti, Reda Kateb, et j'en passe. Un film de Jacques Audiard, qui était bouleversant. On avait reconstitué des prisons en Île-de-France.
Avec Mila Restrepo.
Absolument. Et c'était une montée des marches et un film qui m'a véritablement bouleversée.
Voilà, c'était le Grand Prix du jury de Cannes en 2009, puisque la palme avait été remise au ruban blanc. Et oui. Vous, Hervé, c'était un petit peu avant.
Moi, j'ai un souvenir d'adolescent d'Apocalypse Now qui était un choc énorme. Et puis, un peu plus récent, là, je n'étais plus adolescent, Pulp Fiction, qui était vraiment une explosion de cinéma à tous les sens du terme. C'était absolument incroyable. Et ça reste un film très marquant. Toutes les palmes d'or ne sont pas des films marquants quand on regarde la liste aujourd'hui. Mais il y en a qui restent. Oui. Celui-là là particulièrement.
Et il y avait une bande son assez extraordinaire. Voilà quelques notes de Chuck Berry, You Never Can Tell. Effectivement, cette chanson, on voyait entre autres Travolta
et Uma Thurman dansant sur la pointe des pieds.
Magnifique, avec une chorégraphie
avec
bien
une
ciselée.
Une chorégraphie, effectivement, que Rachel Kahn fait tous les samedis soirs. Merci Hervé, merci Rachel, Esprit merci. Libre, comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h57, dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour l'essentiel.